10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, ce qui est bien, c'est que l'imam Abdelali Mamoun a compris que quand les micros étaient ouverts, il fallait parler de son frère. Speak Uni, ça veut dire quoi, imam Abdelali?
Ça veut dire parler ensemble. Speak en anglais, ça veut dire parler. Et uni, ça veut dire ensemble. On est bien d'accord, je ne me suis pas trompé. Mais ça veut dire aussi spiritualité,
culture.
Et harmonie.
Harmonie.
Voilà, c'est ça.
C'est vrai. Et je me souviens que le jour où on a trouvé le nom de l'émission, l'imam Abdelali était là en plus.
Oui, effectivement.
Mais je trouvais ça très bien. Voilà. Et c'était l'idée de Philippe Robichon.
Non, sur le nom, non.
Speak Uni, c'était qui?
Non, on en parlera plus tard.
D'accord.
Bon, l'imam Abdelali Mamoun est là, ravi de vous retrouver, imam Abdelali. Yassine Ilmi est là, fondateur de l'association OZEZ, qui est un institut de formation qui s'adresse aux cadres religieux, les imams, pour les aider à mieux parler français. Et qui fait des sondages maintenant, on en parlera tout à l'heure. Ça va Yassine?
Ça va très bien.
Bien.
Plaisir d'être avec vous.
Alors, des petits nouveaux aujourd'hui. Serge Benahim, bonjour et bienvenue. Parlez dans le micro, Serge Benahim. Vous allez bien?
Très bien, super.
Bienvenue à Speak Uni. Je rappelle que l'émission est enregistrée puisque le samedi c'est Shabbat. Et c'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes président de la synagogue de la rue de la Roquette. Et vous êtes également responsable national des fêtes funéraires. Je rappelle que la synagogue de la rue de la Roquette est une synagogue de rite séfarade.
Absolument.
Bien, Mohamed Akrid est là. Bonjour Mohamed.
Bonsoir.
Bienvenue, président du collectif Nour de la mosquée d'Ivry-sur-Seine.
Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir.
J'avais traversé la Seine.
Oui, on est voisins. Je suis pas très loin. Ouais, pas...
Et puis, nous avons le pasteur Patrick Lagarde qui est là.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous, Patrick?
Bonjour. Très bien, merci.
Bienvenue sur Beurre FM, ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu. Alors, quels sont les mots qu'on a appris en préparant cette émission, Yassine?
Alors, aujourd'hui, c'est que le sujet, c'est le déconfinement, c'est ça, Philippe?
Donc on va parler du déconfinement des lieux de culte,
oui.
Ou pas d'ailleurs.
Et de lieux de pèlerinage aussi.
Ah, vous rajoutez. Vous faites comme votre émission comme vous voulez. Si vous faites votre émission comme vous voulez.
Non, mais attends, c'est ce que j'avais compris.
En tout cas, on va parler des lieux
déjà,
de culte. Et
déjà,
les mots qu'on a appris, c'est des mots qui sont liés avec les lieux de culte. Donc, c'est des. Déjà, savoir qu'est-ce que veut dire masjid, qu'on connaît pour certains. L'imam peut nous en dire plus.
Alors, le mot masjid, c'est le nom de lieu qui est à la wazn maf'il ou maf'al. Par exemple, si je veux parler de jeu, je vais utiliser le verbe la'iba. Le verbe la'iba. Et le terrain de jeu, c'est mal'ab. Donc, mal'ab, l'ouazn maf'al, mal'ab, c'est l'endroit où je vais jouer. Kataba, écrire. Je vais écrire sur quoi, Yacine? Maktab, c'est maktab, kataba, maktab. La'iba, mal'ab. Sajada, donc le verbe se prosterner. Masjid, donc c'était pour que vous compreniez d'un point de vue logistique ou linguistique le sens de ce mot qui veut dire le lieu de la prosternation, tout simplement.
Un deuxième mot rapidement, c'est le mot Knesset qui est lié cette fois au culte israélite.
Alors Knesset, c'est un lieu de rassemblement et c'est ce qu'on appelle dans l'hébreu moderne, on appelle ça la synagogue, c'est la bête à Knesset, c'est l'endroit du rassemblement.
Mais alors, le parlement chez vous s'appelle la Knesset aussi
Parce que c'est le rassemblement.
Voilà, c'est ça.
Le rassemblement. Et le Bet HaKnesset.
Chez vous.
Il y a la Knesset, c'est le parlement.
Oui.
Et le Bet HaKnesset, c'est la synagogue. Synagogue, c'est un mot qui est grec et qui parle du rassemblement des gens pour prier.
Ah, c'est pas de l'hébreu. C'est pas d'origine araméenne.
Synagogue,
c'est
pas synagogue. À l'origine, c'est un mot grec. Alors, je suis très à l'aise avec les différences linguistiques, mais nous, dans une synagogue, une synagogue, si en plus c'est un endroit de rassemblement, on appelle ça dans le monde séfarade, puisque vous avez cité mes sources, mes origines qui sont séfarades, on appelle ça cela. C'est l'endroit où on va prier.
Ouais, c'est en arabe, c'est la salat qui veut dire la prière. Oui, voilà, c'est un peu.
Vous allez voir que.
L'hébreu, c'est tout ça, c'est araméen, tout ça.
On aura du mal à mettre des différences entre nous, puisque nous sommes franchement fondés les uns aux autres. Mm-hmm. Et le Bet HaKnesset, on va prendre le terme français de synagogue, c'est quelque chose chez nous d'un peu plus important, parce que dans. De cela, c'est l'endroit qui est l'endroit approprié, mais cela, ça, comme origine aussi, scola, de l'endroit de l'école. C'est-à-dire dans un endroit où on vient prier, on vient aussi apprendre à se comporter, et c'est le comportement des gens âgés qui donne l'exemple aux jeunes enfants. C'est pour ça qu'on n'interdit jamais la présence d'enfants dans une synagogue, dans le lieu de prière, parce que c'est l'endroit où on peut leur montrer de visu le comportement souhaité dans un lieu de prière.
Je rajoute, si vous permettez, que pour désigner aussi les mosquées, on utilise aussi le mot jama', jama', c'est-à-dire un lieu qui rassemble, le rassemblement. Donc c'est aussi, notamment au Maghreb, on dit beaucoup plus jama' que le masjid. Le masjid, c'est...
Attention, souvent le mot jama', c'est la grande mosquée du vendredi, celle où on pratique le jumu'ah, jama' pour le jumu'ah. Alors que oui, effectivement, même pour la petite mosquée, on va dire jama', effectivement. Mais moi, quand j'étais petit, on dit n'goulareh el jama', effectivement. Mais quand on revoit dans l'utilisation ancestrale, le jama', c'est la grande mosquée cathédrale qui réunit les musulmans pour prier le vendredi, alors que le masjid, c'est la petite salle de prière, la mosquée, voilà. Le mot kanissa aussi, en arabe, veut dire église. Mais linguistiquement en parlant aussi, ça veut dire l'endroit où se réunit. Kanassa, c'est l'endroit où on arrive à regrouper.
C'est le prochain mot, donc c'est le mot église qui vient du latin ecclesia, issu du grec ecclesia, qui signifie assemblée, lui-même issu du verbe ekaleo, convoqué, appelé au dehors. Donc les chrétiens l'ont adopté sous le terme ecclesia. C'est bien ça.
On a perdu Patrick Lagarde, donc on le rappelle.
Pour être un peu de correction, Knissa. En hébreu, c'est veut dire une entrée, c'est-à-dire là, c'est ce mouvement de rentrer à l'intérieur.
Knissa. Et puis le dernier mot, enfin, on a trouvé plein de mots.
Et vous avez raison. Kanasa dhabiu dakhala fi ma'wahu fi ash-shajar yastatir. C'est on dit une biche est rentrée. On dit kanasa dhabiu, elle est rentrée dans son terrier, dans son lieu de. C'est aussi en arabe.
On reste sur la lignée des lieux de culte. Il y a le mot pagode aussi, qui désigne aussi un lieu de culte pour les adeptes du bouddhisme. Donc quand vous allez dans un temple bouddhiste, on appelle la pagode, tout simplement.
Bien, alors, je sais pas ce qu'on
Il y a le temple. Le temple.
Attendez, c'est pour ça que je demande si on a récupéré Imam Abdelali Patrick Lagarde, qui pourrait justement, puisqu'il est protestant, tout nous éclairer sur son lieu de culte, si on l'a récupéré. Bien, alors. On viendra avec le pasteur Lagarde dans un instant. Mourad Latrèche est avec nous. Mourad, bienvenue sur Beurre FM. Alors Mourad.
Oui.
Voilà, vous êtes directeur de Saphir News. On rappelle à tout le monde ce qu'est Saphir News, pour ceux qui sont avec nous sur ce plateau.
Alors tout simplement, bonsoir à tous. Donc c'est un média, c'est un quotidien d'actualité généraliste, mais qui a la particularité d'être le référent sur les questions du fait musulman en France.
Bien, vous avez lancé il y a quelques jours une consultation, enfin un sondage auprès des responsables des lieux de culte musulmans. La consultation est terminée ou elle est toujours en cours d'ailleurs ?
Non, elle est terminée, effectivement.
Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir à travers cette consultation ?
En fait, nous, en tant que quotidien d'actualité, nous observons toute l'année ce genre d'actualité sur le fait musulman, et notamment nous avons regardé de près comment les responsables de lieux de culte géraient cette crise. Et donc l'idée est venue très vite en discutant avec des personnes qui sont en contact avec ces acteurs, et notamment Yacine qui en fait partie. Et nous avons justement initié cette consultation pour savoir comment ils allaient gérer le déconfinement.
Bien. Comment est-ce que vous avez sélectionné les lieux de culte que vous avez interrogés ?
Alors, on a lancé un appel, on a sélectionné selon leur taille, selon leur lieu géographique et selon leur attachement à des fédérations ou pas. Donc le but étant d'avoir une diversité de participants à cette consultation, aussi bien par leur taille que par leur affiliation, par leur situation géographique.
Alors, parmi les questions que vous leur avez posées, est-ce que vous leur avez demandé si certaines mosquées sont restées ouvertes et ont continué à accueillir des fidèles pendant le confinement ?
La question n'a pas été posée. Pour la simple raison, c'est que nous, on avait des informations que l'écrasante majorité avait fermé le lieu de culte. Et le but, c'était surtout de préparer le déconfinement. Donc, les questions étaient orientées plutôt sur le déconfinement.
D'accord, vous n'avez pas demandé si certaines étaient quand même restées ouvertes malgré tout.
Non.
Et comment ils avaient vécu, puisque une partie du confinement a intégré le mois de Ramadan, comment ils avaient vécu ce mois de Ramadan ?
Si, par contre, on a posé des questions sur la période du confinement, notamment sur, par exemple, l'impact financier qu'a eu le confinement, sur les activités liées aux activités sociales, par exemple, qui n'ont pas pu être menées comme d'habitude. Donc, on a posé quelques questions sur ces sujets.
Alors, globalement, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact financier du confinement sur les lieux de culte musulmans ?
Alors, pour la plupart, ils nous ont répondu qu'ils étaient en cours, justement, de constater le bilan, quoi, en fait, des répercussions. Alors, pour certains, ont déjà mesuré l'impact. Donc, une bonne partie, plus de la moitié des personnes ont constaté plus de la moitié des pertes sur le budget.
C'est-à-dire que c'est 50% de recettes en moins, c'est ça que ça veut dire, jusqu'à aujourd'hui.
Ouais. Annuel. C'est pour vous dire quelle est la gravité de la situation sur un budget annuel.
On l'a vu, hein, les catholiques ont pas fait une quête, mais ont aujourd'hui demandé à récolter 50 millions d'euros. Donc, vous voyez l'importance. Mais c'est quelque chose que vous avez constaté, Mohamed Akrid, oui. à Ivry, par exemple.
Oui, oui, tout à fait. Je confirme les propos de Mourad, que je salue au passage, puisqu'on a participé à cette enquête qu'il a lancée. Effectivement, le Ramadan, c'est une période de grande collecte pour toutes les mosquées, en particulier d'ailleurs les mosquées qui sont en projet de construction, comme la nôtre. Alors, certaines mosquées se sont débrouillées mieux que d'autres. Je pense que c'est notamment le cas de notre mosquée, parce qu'on a lancé des grandes cagnottes sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et donc, on a réussi à amortir un peu le choc de ce manque à gagner, mais il représente quand même à peu près 50%.
Mais ça ne comble pas.
Ça ne comble pas. Je dirais, avec l'effort qui a été fait, on est à plus de 50% sur ce qu'on avait l'habitude de collecter, et notamment dans la dynamique du futur projet.
Alors, d'autres questions, Yacine, qui ont été posées en représentant des mosquées ?
D'autres questions qui ont été reposées ?
Oui. Alors, on leur a demandé, par exemple, quelles sont les institutions qui ont joué un rôle important.
Tout à fait.
Pendant cette crise.
Ça a été aussi un surprenant résultat, parce qu'effectivement, le CFCM, qui est souvent pointé du doigt, ressort comme un des acteurs fondamentaux pour ces institutions et pour ces mosquées durant ce mois du Ramadan, n'est-ce pas, Mourad ?
Oui, tout à fait. Donc, d'ailleurs, les deux institutions qui ont été le plus utiles pour les responsables du culte ont été la préfecture et le CFCM.
La préfecture est devant, quand même. Hein.
Oui. C'est logique aussi.
Comment vous l'expliquez ?
Parce que, en fait, à travers la préfecture, il y a des consignes de sécurité qui ont été données à des lieux de culte. Et donc, naturellement, les mosquées s'orientent vers les préfectures pour avoir accès à ces consignes.
Moi, j'ajouterais juste un petit complément. En ce qui nous concerne, notamment par exemple dans le Val-de-Marne, je mettrais moi en premier lieu, on a créé une fédération ou un rassemblement, c'est le RAM 94, Rassemblement des associations musulmanes du Val-de-Marne, qui a été vraiment l'acteur majeur, puisqu'il y a eu une très grande concertation dès le départ sur comment réagir, sur ce qu'il faut faire, et que ce soit pour la période de confinement ou la période de déconfinement d'ailleurs. Et même aujourd'hui, puisque on est un peu dans le flou au niveau des lieux de culte par rapport à on est assez peu cité dans les discours officiels comme les cinémas ou les lieux de spectacle.
On parlera tout à l'heure. Hein,
effectivement, si je peux rajouter sur la question des préfectures, elles ont joué un rôle majeur parce qu'elles ont organisé aussi des réunions avec ces acteurs. Je pense que ce soit dans le Val-de-Marne, mais dans tous les départements où il y a des mosquées, des lieux de culte, il y a eu des réunions.
Mais même le CFCM au ministère de l'Intérieur et puis avec le ministère de la Santé, toutes les instances qui sont
mobilisées.
liées au Covid.
Alors pour terminer, Mourad, est-ce qu'on connaît le pourcentage des mosquées qui sur le territoire français ont accueilli la prière de l'Aïd en leur sein ?
Alors, il n'y a pas un pourcentage, parce que on avait fini l'enquête juste avant la fête de l'Aïd, donc c'est plus des intentions que la plupart, je peux vous donner un pourcentage si vous le souhaitez, mais c'était des intentions, c'était avant la fête de l'Aïd. Donc, je vais regarder si vous me permettez. Donc, pour ceux qui envisageraient éventuellement d'ouvrir le 2 juin, après le 2 juin, ils représentaient seulement 20%. Ça veut dire que le reste était en attente de voir comment les choses allaient. Donc, ils étaient précautionneux.
Bien. 20%, c'est quand même beaucoup, vous dites seulement, mais c'est beaucoup quand même.
Ah, moi, je trouve que ça... Là, il ne s'agit pas de la fête de l'Aïd.
Oui,
il s'agit du après 2 juin.
L'ouverture, oui. Ouais.
C'est l'ouverture après l'Aïd, pas célébrer l'Aïd, parce que la majorité des mosquées, l'écrasante majorité, n'ont pas du tout célébré l'Aïd.
Déjà, il faut savoir que la prière de l'Aïd, pour la plupart des associations, n'est pas célébrée dans la mosquée, mais en extérieur. Par exemple, à Levallois-Perret, le maire leur a fait donc leur a donné mis à disposition le grand stade et donc ils ont célébré l'Aïd dans le stade. À Pantin aussi, il y a pas mal d'endroits.
C'est Balkany qui leur a prêté son jardin.
Voilà, c'est ça, Balkany, tout à fait. Mais n'empêche qu'ils étaient un nombre très très important. C'était énorme, plus de 10 000 personnes qui sont venues.
Il a un grand jardin.
Non, c'était le stade, Philippe. Si tu dis que c'est son jardin, le stade de la ville, oui, peut-être.
Bien, Mourad Latrèche, directeur de Saphir News. On peut lire les résultats de cette enquête dans Saphir News.
Tout à fait.
Merci d'avoir été avec nous. Alors, on va récupérer tout à l'heure Patrick Lagarde, donc, qui est trésorier de la Fédération protestante de France. Speak Uni, Imam Abdelali, vous voulez dire quelque chose?
Non, je dis, on l'a récupéré là, c'est bon.
Oui, c'est bon. Alors, je suis rassuré, Imam Abdelali, vous avez bien géré ça. On est là jusqu'à 11h.
Comme un génie.
Speak Uni revient dans un instant. Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et aujourd'hui on parle du déconfinement des lieux de culte avec Yassine Elmi qui est avec nous, Serge Benaïm qui est là, président de la synagogue de la rue de la Roquette et qui est également responsable national des fêtes funéraires. Nous avons Mohamed Akrid qui est président du collectif Nour de la mosquée d'Ivry dans le Val-de-Marne, Ivry-sur-Seine. Le pasteur Patrick Lagarde est avec nous, trésorier de la Fédération protestante de France, et l'imam Abdelali Mahmoud est là également. Quelle est votre citation du jour, Yacine?
Ah, ok. J'ai une citation et après j'ai une question à Patrick Lagarde.
Allez-y.
La citation du jour, je l'ai trouvée intéressante. C'est un proverbe chinois qui dit « Sauver la vie d'un homme vaut plus que de construire une pagode de cet étage. » Sauver la vie d'un homme vaut plus que construire une pagode de cet étage.
Mais pas 8.
Hein?
7, c'est... Oui, même, mais 8. Voilà. 8,
c'est des pagodes, vous savez, c'est avec des étages.
Ils ont... Ah oui, d'accord.
Ouais. Peut-être qu'ils limitent à 7 étages.
Voilà, c'est parce que 7 cieux.
Ouais, c'est...
Enfin, le 7, c'est important. Dans toutes les religions, le 7,
c'est intéressant, c'est lié à l'actualité, quand même.
Mmh, oui, c'est vrai.
Alors, question à Patrick Lagarde, Yacine.
On dit souvent que les catholiques ont des églises et les protestants des temples. Est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est effectivement comme ça que ça se qu'on le dit. Oui, et dans la coutume, effectivement, les catholiques ont des églises et les protestants ont des temples. C'est une vieille tradition qui se poursuit. Voilà, certains protestants parlent d'église également. Pas de difficulté là-dessus.
D'accord.
Il n'y a pas de débat. Voilà.
Non, il y a quand même une différence entre le contenu d'une église et d'un temple, c'est-à-dire que le temple c'est une sorte de salle avec des bancs où les gens s'assoient et écoutent le discours du prêtre du pasteur, alors que dans l'église il y a tout un rituel, les sacrements avec et puis il y a aussi,
alors Patrick Lagarde veut réagir,
ils sont iconoclastes, oui. Les protestants, alors que les catholiques sont iconodules.
Alors pour aller dans votre sens, effectivement, pour faire simple, une église catholique va être consacrée. On ne fait pas ça dans le milieu protestant.
Alors consacrée, qu'est-ce que ça veut dire, Patrick Lagarde?
Eh bien, ça veut dire qu'il y a une cérémonie et que le lieu va être considéré comme dédié à cette activité. Mmh. Dans un temple protestant, habituellement et surtout chez les évangéliques, ça peut être une salle quelconque. Et donc, elle n'a pas forcément besoin d'être consacrée.
D'accord.
Voilà, et donc les églises protestantes sont effectivement beaucoup plus simples. Il y a des bancs, une chaire, on écoute la parole, on parle, on chante. Dans une église catholique, en général, il y a un rituel. Chez les orthodoxes, ce rituel est même encore plus imposant.
L'architecture intérieure, d'ailleurs, de l'église, avec le chœur, a une architecture religieuse, alors que le temple, effectivement, ce sont que quatre murs avec l'intérieur, une volonté d'exprimer la grandeur de Dieu et d'étude, puisque chez vous, dans le temple, on trouve toujours un livre ouvert.
Alors, on trouve un livre ouvert, on ne trouve pas de statue. Les vitraux, s'il y en a, sont tout simples. Voilà, on peut opposer une austérité protestante, je dirais, par rapport à une liturgie, à quelque chose qui est certainement plus esthétique côté catholique.
Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact que le confinement a eu sur les lieux de culte en France, Serge Benahim ?
Alors, ce confinement, si vous permettez, sans parler du côté sanitaire, où tous les studios, tous les plateaux de télé en parlent, je pense que pour une lecture de gens de la religion, ça a été un événement extrêmement important, parce que Dieu nous a mis tous à égalité sur la même ligne, parce qu'il a fermé toutes ces maisons, qu'on les appelle le temple, les mosquées, les églises, toutes les maisons de Dieu ont été fermées. Et en même temps, tous les endroits où le comportement, où les lieux où on se comportait d'une manière où Dieu ne le souhaitait pas, étaient aussi fermés. Ce qu'on a compris de là, c'est le message qu'en fin de compte, Dieu n'était pas satisfait du comportement de tous ses enfants, de tous ses enfants. Et d'autre part, il nous a fait signe en nous disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous allez dans des endroits où de débauche, vous avez des endroits de mauvais comportement. » Et c'est pour ça que je vous ai fermé la porte. Il a dit, vous avez un sang, je vous ai donné une vie, il faut profiter de la vie. Et en fin de compte, il nous a punis dans ce qui était notre vie, c'est-à-dire il nous a même indiqué le chemin de notre repentance en nous empêchant d'aller rendre visite à nos malades, d'aller rendre visite à nos proches. Alors la première analyse du confinement, la première conclusion, de savoir quel était ce défi, ce message, cette remontrance divine. Ensuite, il faut reconnaître tous les dirigeants des cultes, quels qu'ils soient, ont préféré, et on l'a vu dans l'analyse de monsieur
de Mourad, hein, ouais,
tout Mourad à l'heure, Latrèche, que, ouais. À une très grande majorité, on peut, bien sûr, il y a des exceptions à la marge, les gens ont préféré fermer, et quand bien même les problèmes financiers, parce que nous avons tous prouvé que la vie n'a pas de prix. On va tous rentrer dans une période très difficile de financement. On a des loyers, on a des charges, on a des salaires.
Bon, on n'en parle jamais, mais c'est aussi le cas des lieux de culte.
C'est aussi le lien du culte.
Eh ben oui. Ils peuvent faire banqueroute.
Voilà, c'est toujours un juif qui parle d'argent, mais bon, dans le cas présent, c'est que effectivement, nous avons pris cette situation financière que l'on va remonter, parce qu'on sait très bien que les fidèles sont des gens généreux et réagissent, et tous ont très bien compris l'impact.
Mais vous le savez très bien, mais est-ce que vous le constatez, en fait, pour l'instant ?
Bien entendu, nous avons quand une synagogue est fermée, les dons quotidiens, hebdomadaires n'arrivent pas. Bien sûr, nous avons une chose, c'est dans la responsabilité communautaire, les gens n'ont pas attendu d'appel, et nous recevons des dons qui nous permettent de faire face à la situation.
Parce que là, les gens n'ont pas donné pendant 10 ou 12 semaines, est-ce que ça veut dire que là, ils se rattrapent pour donner sur ces 10 ou 12 semaines de retard ?
En toute honnêteté, je suis responsable de la synagogue la plus fréquentée d'Europe, et les gens n'ont pas attendu. Pendant même le confinement, on m'a téléphoné en me disant certainement que la communauté est en situation financière difficile, ils ont envoyé des dons pendant le confinement.
Mohamed Akrid, alors donc, qu'est-ce que vous constatez, vous ? Quel a été l'impact du confinement sur la mosquée d'Ivry ?
Ben, un impact très très fort, hein. Je confirme ce que vient de dire Serge. Effectivement, la maison de Dieu fermée, c'est une partie de nous-mêmes qui, pas qui s'arrête, mais qui s'adapte. Alors, les interprétations de ce message divin sont divers. Il y a ceux qui voient en cela une punition divine. c'est pas vraiment notre manière de voir les choses à Ivry, en tout cas. C'est...
Parce que j'ai entendu des musulmans le dire quand même. Hein.
Oui, oui, non. Parler d'Ivry. C'est pour ça que je parle, ouais. je parle
et,
pas.
Et même des imams.
Bien sûr, oui, j'ai bien même sûr, des noms. Non, mais
ça te... T'as des noms
ouais, j'en connais un. Faut pas j'en connais un qui a parti de là.
Moi, ouais. Ah ouais, moi ah ouais. Là, tu dis n'importe quoi, Philippe.
Sur la Chine j'ai même un son.
J'ai dit signe.
Sur la signe. Chine.
J'ai dit que c'était un signe, Philippe, tu te rappelles?
Document Beurre FM.
Beurre FM, j'ai dit que c'était. J'ai même précisé que si ça n'est pas une punition, c'est un signe.
C'est un jeu de mots.
Pour ce que faisaient les Chinois aux Ouïghours.
Alors, on peut. Effectivement, il y a eu beaucoup d'interprétations chez les musulmans. Je pense qu'il y a la même chose côté juif ou chrétien. Et c'est tout à fait normal. Donc. Maintenant, quand on regarde les épidémies, ça n'a pas démarré hier. La première épidémie qu'a connue le monde musulman et l'islam, c'est à l'époque du calife Omar, donc qui était quand même à l'apogée de l'islam, où les gens étaient très vertueux, etc. Mais ça n'a pas empêché la survenance d'une épidémie à Damas à cette époque-là. C'est plutôt un cadeau. Alors, nous, on le voit plutôt comme un rappel, un cadeau. Divin pour justement nous renvoyer à nous-mêmes, nous rappeler à l'essentiel, parce que tout ce qui est superficiel a été arrêté. Alors je dis pas que la mosquée elle est superficielle, mais en réalité au regard de la vie humaine, elle est superficielle. C'est ce qu'a dit d'une autre manière Serge. Quand la vie humaine est en danger, la mosquée, la synagogue, où ça devient des murs et ça n'a plus de valeur. Et donc, pour nous, c'est plutôt ça, un rappel, un retour vers Dieu, un retour vers la réflexion, vers notre rôle en tant qu'être humain dans un écosystème que Dieu a créé. Et donc, chacun a eu le temps, 2 mois et demi, 3 mois, pour réfléchir, pour revoir un peu sa vie, pour revoir un peu ses habitudes. Et je pense qu'on a tous été, de l'imam jusqu'au fidèle le plus lointain, interrogés à ce titre-là.
Patrick Lagarde, alors, chez les protestants... Quel a été l'impact du confinement sur les temples?
Alors, tous les temples ont été fermés, hein, c'est clair. Le sujet aujourd'hui, c'est le déconfinement, avec des jauges qui sont grosso modo une personne pour 4 mètres carrés jusqu'à présent.
Dans les lieux de culte, hein, ça c'est effectivement, c'est les consignes qui ont été données.
Oui, dans les lieux de culte. Je reconnais qu'aussi on voit apparaître des nouvelles consignes, mais rien n'est apparu pour les églises, pour les temples, pour les lieux religieux. On a été en contact très suivi avec effectivement le ministère de l'Intérieur, la Santé, où notre président a régulièrement rencontré les autorités civiles, nos interlocuteurs étant souvent le préfet, et on a distribué des consignes à toutes les églises pour la partie des confinements, et on a invité toutes les églises à fermer pendant la période de confinement. L'impact que ça peut avoir. Alors, sur le plan de trésorier, on a réuni les trésoriers des principales églises protestantes pour se rendre compte que les gens, une bonne partie, avaient basculé leurs dons qui se faisaient le dimanche ou le samedi pour nous, vers des dons en ligne qui ont D'accord. été multipliés par 2 ou 3. Mais ça ne correspond quand même qu'à 30% ou 40% des dons habituels. On peut penser qu'à la rentrée, un certain nombre de gens ont mis leurs offrandes de côté et vont les apporter. Et une ou deux églises qui ont redémarré, j'ai eu l'information, se sont retrouvées avec une offrande du jour d'ouverture qui était 5 à 6 fois plus forte que d'habitude. On est quand même inquiet sur 2021. 2020, on passera parce que les gens avaient des réserves, mais c'est 2021 qui va être, à mon avis, très difficile. Et ça a été pris, comme vous le soulignez, certains, comme une sorte de signe, en disant « Notre monde est fragile, notre Dieu nous avait demandé d'en prendre soin, et finalement, on ne l'a pas fait. » Et c'est un coup de semonce. Enfin, on le prend comme un coup de semonce. Attention, parce que ça pourrait être plus grave. Aujourd'hui, la Covid, le virus, c'est pas très méchant. Il est méchant, mais pas très. La peste a été beaucoup plus grave par rapport à ça. Et peut-être ce retour à la nature, ce qui est intéressant, c'est de voir des gens qui sont revenus effectivement, ont réfléchi sur eux-mêmes, ont redécouvert les oiseaux, ont découvert que la pollution s'était arrêtée. C'est assez étrange comme situation.
Vous parlez de coûts de semences. Mais est-ce que vous, particulièrement justement dans la communauté protestante, vous n'avez pas été plus affligé que d'autres communautés religieuses, puisque c'est là-bas, à Mulhouse, dans une de vos communautés, que ça a fait le plus de victimes et de dégâts.
Ça a commencé en France.
Ça a commencé en France, voilà. Ouais, oui. Comment vous avez ressenti justement tout cela?
Alors, avec un peu d'amertume, parce que effectivement, c'est à Mulhouse, au travers de la porte ouverte, que ça a démarré. On connaît le pasteur qui a été affecté d'ailleurs. Ils ont perdu une vingtaine de personnes décédées de cette communauté. La communauté a été stigmatisée. Le pasteur et ses responsables ont été menacés de mort après coup. Alors qu'à l'époque où s'est tenue cette réunion, manifestement, il n'était pas connu que c'était interdit. Et les gens n'ont absolument pas mesuré ce qui s'est passé.
Bien sûr.
Alors du coup, compte tenu de tout ça, le monde protestant est devenu très, très prudent par rapport à ça, et en particulier les communautés évangéliques qui sont nombreuses, qui chantent, qui manifestent beaucoup d'affection fraternelle. Il est certain que là, on a changé, quoi. Les gestes amicaux d'embrassade, de se prendre dans les bras, tout ça c'est fini maintenant, c'est clair. Port du masque obligatoire, on chante avec un masque, ça fait drôle, mais c'est comme ça. Et puis avec quelques comportements complètement aberrants. Puis ça, j'assume ce que je dis du président Trump qui sort une Bible en main. Franchement, enfin, je veux dire, ça a été vu, on est très fâchés de ça, parce que plutôt que de tenir une Bible en main, il aurait mieux fait de la lire. Et c'est pas ce qu'il fait en ce moment.
Ça sera la punchline du jour. Bien, elle est signée Patrick Lagarde. Vous restez avec nous. On parle du déconfinement des lieux de culte et puis on verra tout à l'heure Imam Abdelali après une courte pause de publicité, si vous voulez bien qu'on la fasse. Eh bien, on fait la quête. Hein. C'est comme à l'église. On verra si les fidèles sont inquiets et s'ils vont retrouver le chemin des lieux de culte comme ils avaient l'habitude de le faire. Speak Uni jusqu'à 11h sur Beurre FM.
Speak Uni revient dans un instant. 10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ça va bien là-bas, viens.
Voilà, et on parle du déconfinement des lieux de culte avec l'imam Abdelali Mamoun dont vous entendez la voix. Yassine Ilmi qui est avec nous, Serge Benahim qui est président de la synagogue de la rue de la Roquette à Paris. Vous nous disiez que vous étiez la mosquée la synagogue la plus fréquentée d'Europe.
L'absus révélateur.
Ah, c'est vrai que je dois dire que j'ai beaucoup plus l'habitude avec les mosquées qu'avec les synagogues.
Non, c'est pas ça. C'est que c'est une synagogue de culture séfarade. C'est-à-dire très imprégnée de la culture arabo-musulmane.
Construite en 62, après la guerre d'Algérie.
Comment ?
Vous avez été construit en 62 après la guerre d'Algérie.
Elle a été inaugurée en 62.
En 62.
Ah oui. Ouais.
Mais par la communauté turque, les juifs d'origine de Turquie.
Ah oui.
D'ailleurs, séfarade, ça vient de l'arabe sfar, le voyage. Ceux qui ont voyagé.
Safar, oui. Voilà. Ou les blancs ou les jaunes aussi. Saf asfar, qui veut dire jaune, blanc.
Sur la racine du voyage, du safar, sfar.
Safar, voyage, c'est ça.
Safari, voyage.
Vous ne l'avez pas vu, mais Philippe, il a fait un petit sourire. Un petit sourire sympathique quand on a entendu le mot séfarade. Parce qu'en fait, c'était un des mots qu'on a préparé durant l'émission.
Ah, d'accord, c'est pour ça.
Parce que les gens ne connaissent pas toujours la différence, finalement.
Entre les Askenazes
et les séfarades. Mais ça sera l'objet d'une autre émission. Parce que là, il faut qu'on avance.
Je vais vous donner un petit peu pour la prochaine émission, c'est qu'il n'y a pas que des juifs séfarades et des juifs Askenazes. Il y a ce qu'on appelle les juifs orientaux. C'est-à-dire des juifs qui sont tout le temps restés en Irak,
Yémen,
en Syrie, etc.
Syrie, bah, Yémen, même la Palestine.
C'est pour ça que le mot de séfarade, dans le sens sfar, de voyage, est important parce que c'est des juifs qui étaient des juifs orientaux qui ont voyagé vers l'Espagne.
Voilà. Pour terminer ce tour de table, Mohamed Akrid est là avec nous, président du collectif Nour de la mosquée d'Ivry-sur-Seine. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les fidèles désertent les lieux de culte, Mohamed ?
Absolument pas. Les fidèles ont attendu avec une impatience, une très grande impatience, le moment de retrouver leur mosquée, en l'occurrence si on parle de notre mosquée. Alors, nous, on était en confinement pendant maintenant 2 mois et demi. Par contre, on a eu, dans cette période de confinement, il y a eu le Ramadan. Alors, le Ramadan, c'est un mois hyper actif, c'est un mois hyper social, c'est un mois où la relation humaine est très très forte, où il y a une spiritualité, une dynamique spirituelle qui est très très forte, puisque beaucoup de gens ne fréquentant pas les mosquées en dehors du Ramadan, fréquentent la mosquée pendant le Ramadan. Donc c'est spirituel, culturel, social.
Tout ça a été confisqué.
Alors nous, ça a été confisqué d'une certaine manière, mais on a dû nous adapter. Et donc on a vécu un Ramadan exceptionnel. En tant que président de la mosquée, j'ai vécu le meilleur Ramadan de ma vie.
Parce que vous l'avez vécu chez vous.
Parce que je l'ai vécu chez moi.
Voilà. Reposant.
Pour ma femme et mes filles, ça a été du bonheur. Maintenant, on a quand même maintenu pas mal d'activités en ligne. Donc les prêches du vendredi, les cours hebdomadaires, pas mal d'activités culturelles. Spirituel, on l'a maintenu en ligne via les outils adéquats.
Et puis,
on a maintenu une activité solidaire. On avait chaque Ramadan, comme dans l'écrasante majorité des mosquées, font distribuer des repas pour la rupture du jeûne. Et donc, on a maintenu cette activité-là. Et depuis du premier jour, on a démarré avec 70 repas. On a fini avec 600 repas distribués par jour. Et pas simplement aux musulmans, d'ailleurs. Tous ceux qui venaient chercher à manger.
Alors, Serge Benaïm, vous, est-ce que vous pensez que les fidèles vont déserter la synagogue ou au contraire, il y a la ferveur dont parlait Mohamed ?
Moi, je rejoins tout à fait mon frère Mohamed, dans le sens où si la synagogue, enfin, si les lieux de culte ont besoin des fidèles pour les dons, les fidèles ont besoin de la synagogue.
Oui.
N'oublions pas, de la synagogue, des églises, des temples, etc. Si on écarte le problème de l'argent, vous savez, nous sommes des croyants, si Dieu y donne à manger aux oiseaux dans le désert, il donnera certainement les moyens financiers pour couvrir l'année 2021. Et 2021, je n'ai aucun doute là-dessus. Nonobstant, le besoin des fidèles, il faut savoir une chose. Pourquoi on fait une prière ? On peut faire la prière très gentiment à la maison, on ferme les portes, on envoie les enfants jouer au jardin, on ferme la porte de la cuisine et on se concentre sur une prière à la maison. Alors pourquoi aller dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue où on va entendre du bruit, on va se déplacer, peut-être des fois sous la pluie. C'est parce que dans l'envie, dans le ressenti, en psychiatrie on appelle ça le soif profond, on a besoin d'appartenir à cette communauté qui va prier ensemble. Parce que si nous sommes des monothéistes, on n'a jamais vu Dieu, on ne le verra jamais, mais Dieu, il faut qu'il soit quelque part. Et en fin de compte, il est dans chacun d'entre nous. Et lorsqu'on va dans la synagogue, lorsqu'on fait ce mouvement de fréquenter l'endroit de prière, on reconstitue, si vous voulez, quelque chose qui est un peu ésotéromorphique, c'est-à-dire on redonne masse à Dieu en étant tous ensemble. Parce qu'en fin de compte, à titre individuel, peut-être je ne suis pas très fort et je ne suis pas très bien et je mérite une punition, mais lorsque Dieu, de là où il est, il regarde ses enfants entre eux se saluer et prier ensemble, même s'il voulait taper, c'est comme nous sommes tous des pères, on veut réunir les enfants pour leur régler le compte, pour remettre les pendules à l'heure, mais quand on les voit s'amuser, plaisanter les uns avec les autres, on baisse la garde et surtout la miséricorde qui joue.
Ouais, ésotéromorphique, c'est-à-dire vivre une spiritualité avec les âmes de ses fidèles. Nous, on appelle ça le tawhid par la wahda, l'unité par l'unicité, ou l'unicité par l'unité. Elle est
Dieu,
indispensable.
C'est Dieu.
Oui, Dieu, c'est l'unicité, et l'unité, c'est nous. Voilà. Al-wahda, c'est nous. Et le tawhid, c'est l'unicité de Dieu. Donc, on ne peut vivre véritablement cette unicité qu'à travers véritablement l'unité, le jama'a, le groupe, le jama'a. Dans le Coran, on a même une sourate complète qui parle de ça, qui, pour certains savants, notamment l'imam Shafi'i, disait qu'elle elle traduit tout le Coran. C'est la sourate l'Asr. Il dit que l'homme est en perdition, en jurant sur le temps, sauf ceux qui croient en groupe,
qui accomplissent des bonnes actions jama'atan amanu wa amilus salihat centre conseil wa tawassaw bil haqqi dans la vérité et dans l'endurance. C'est effectivement le rôle primordial d'un lieu de culte, c'est de prier dans cette unité, dans cette jama'a qui permet de justement de lancer de manière plus forte ce lien que l'on doit avoir et intime avec notre Créateur, avec Allah Azza wa Jalla.
Patrick Lagarde, est-ce que vous pensez que les fidèles protestants risquent de déserter les temples?
Alors c'est une vraie question que nous nous posons. Je dois dire qu'on a maintenu le lien, comme vous tous, à travers les outils modernes de communication. Et donc, la présence était relativement nombreuse, pas évidemment ceux qui ne sont pas connectés. Et la question maintenant, c'est comment vont-ils revenir? Parce que la question, c'est quand même cette présence physique, cette distanciation physique.
Et peut-être la méfiance.
Et la méfiance. Et si vous voulez, je pense que autant autrefois les gens de la communauté étaient des frères, et ils sont toujours des frères. Mais avec le Covid, ce sont peut-être des gens à risque. Alors à la fois à risque parce qu'ils sont âgés, parce que ce sont des personnes à risque comme ça, et que je risque moi de contaminer, ou qui risque de me contaminer. Si vous voulez, quand vous passez sur le trottoir et que les gens en face changent de trottoir à votre approche, mais je ne suis pas le seul à les dire, il y a manifestement quelque chose qui s'est passé. Alors, que seront nos églises? C'est une vraie question. Je crois qu'elles seront différentes. Nous serons certainement obligés de multiplier le nombre de prédications, de temps de la parole. Je suis moi-même le responsable d'une communauté qui fait 350 personnes. Mais 350 personnes, le temple est plein.
Ouais. Il n'y a plus de place, quoi.
Il n'y a plus de place. Donc on ne pourra pas refaire ça. Au maximum, on va pouvoir mettre, 60 personnes. C'est-à-dire qu'il va falloir dire aux gens, vous ne venez qu'une fois sur 4.
Alors, Mohamed Akid,
Lagarde, j'écoute ce que vous dites parce que nous sommes des responsables communautaires.
Nous ouvrons
nos portes à des lieux de culte, mais il ne faudrait pas confondre la précaution sanitaire avec une baisse de spiritualité. La volonté de venir, elle est la même et elle sera la même. On la retrouvera. Simplement, à l'heure actuelle, vous les avez cités, nous, pour avancer sur peut-être les questions de mon ami de Abdelhaïd, c'est la chose suivante, c'est que à l'heure actuelle, de manière sanitaire, l'analyse sanitaire ne nous permet pas d'ouvrir la maille. Nous sommes encore dans la vague pandémique, même si l'effet de cloche est statistiquement inscrit. Il faut savoir que ce virus a un double effet. C'est toute sa dangerosité là, parce que nous sommes devant une pandémie de 30 000 morts pour la France, n'est-ce pas? Oui. Et ce virus agit d'une manière suivante. D'une part, il rentre comme un virus, il s'installe dans les matières molles. En histologie, on appelle ça une matière molle, c'est-à-dire les poumons, les intestins, le foie. Et en plus de ça, il s'installe dans nos anticorps pour empêcher à nos anticorps de le combattre. Donc, et puis il faut savoir une chose aussi, c'est que dans les excréments, le virus est encore vivant et actif 50 jours après la guérison du sujet. C'est-à-dire, on ne peut pas s'amuser. Nous, dans notre déconfinement, comme on appelle, évidemment, on a préparé, on a condamné un siège sur deux pour donner les 4 mètres carrés autorisés à tout le monde. Mais surtout, nous avons fermé les toilettes et nous avons géré les toilettes de sorte que, à chaque fois que quelqu'un descendait en toilette, il y avait quelqu'un qui passait avec des javels pour désinfecter. Et donc, ça, c'est la précaution sanitaire. On a demandé aux gens qui étaient fragiles et on a laissé aux gens fragiles de décider eux-mêmes de se vêtir de ce qualificatif et aux enfants de moins de 13 ans de ne pas venir.
Le quiz.
Autrement, voilà, nous, ce qui est dans les synagogues, on demande aux gens de s'inscrire pour ne pas dépasser le seuil maximum.
Mohamed Akrida.
Alors, le déconfinement pour nous a démarré le 1er juin. Donc ça
la veille du 2?
La veille du 2, oui.
Ah, c'était pas mal, vous. C'est vrai qu'on avait déconfiné le 2.
Non, en réalité, on avait, il y avait une souplesse.
Il y avait l'avis du Conseil d'État qui est arrivé avant.
Et surtout par rapport au lieu de culte, c'est venu même.
Le 23 mai.
D'ailleurs, c'est nos frères chrétiens qui ont fait une grande pression sur le gouvernement. Alors, il y a eu une réunion d'ailleurs qui a rassemblé tous les cultes avec le ministère de l'Intérieur, etc. Et donc c'est là où avait été annoncé le 24, il me semble, le 24 mai. Le 24 mai c'était l'Eid, d'ailleurs ça avait posé un certain nombre de questionnements, mais par rapport au fait à la Pentecôte chrétienne et juive, donc il y a eu cette volonté d'assouplir un peu les choses du gouvernement, et donc on a eu des consignes qu'on pouvait reprendre avec bien sûr toutes les mesures sanitaires. Alors nous on a démarré le premier, pourquoi ? Parce que on s'est concerté au niveau du RAM 94 et il y a eu quelques mosquées pilotes, notamment la mosquée de Créteil, la mosquée de Choisy. Ils ont ouvert une semaine avant, juste après l'Aïd, le lendemain du Aïd. Et on a un peu observé comment les choses se passaient. Donc chez nous, globalement, ça se passe très bien. L'affluence, elle est là. Nous, notamment, la grosse affluence, c'est le vendredi. On a 2500 à 3000 personnes. On a décidé de faire deux offices.
D'accord.
Et ça se passe plutôt bien.
Et aujourd'hui, vous avez donc combien, 1000 personnes par office ?
Alors, il y a à peu près entre le premier, il y a plus de monde, il y a à peu près 1500 le premier,
ah ouais, quand même.
Et 1000 le suivant. Alors, on a mis en place un protocole très 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 fort, très.
Mais vous avez fermé les toilettes vous aussi ?
Oui, les ablutions, on ne permet pas les ablutions, on ne peut pas faire les ablutions à la mosquée. Donc, les toilettes sont strictement fermées. Donc la personne qui vient, le fidèle qui vient à la mosquée, il vient avec ses ablutions, il vient avec son tapis, il vient avec son masque. Et puis à l'intérieur,
obligatoire. Sinon, ils ne rentrent pas.
Alors, on a des masques pour les gens qui oublient, mais la plupart des gens viennent avec leurs masques. Donc, les gens comprennent, ils veulent vraiment reprendre la possession de leur lieu de culte. Et donc, ils respectent ces règles.
Attention, ne vous m'ammonisez pas, Mohamed. C'est quand je vous fais le signe de vous arrêter, il ne faut pas accélérer, voyez.
Ça ne rentre pas. M'ammoniser.
C'est quand tu fais signe d'arrêter, c'est quand même tu passes des fois que ça rentrerait.
Je suis devenu moi-même, mon nom, l'expression.
Ouais, la m'ammonisation.
C'est un néologisme.
Voilà.
Néologisme.
Merci en tout cas à tous d'avoir été avec nous. Yacine, pas de quiz cette semaine, on n'a pas eu le temps.
C'était trop intéressant, pourtant j'avais mes questions, on les fait juste après.
Non, on les fera après, voilà. On fera deux fois plus de questions. C'est comme les gens qui ont raté la quête. On fera deux fois plus de questions la semaine prochaine. Passez un bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Speak Uni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.